Les deux orphelines, troisième partie, chapitre 11. Revenons à Henriette, que nous avons laissée au moment où, voulant répondre à la tendresse, à l'affection passionnée dont elle était l'objet de la part de Roger, elle avait fait un effort pour sourire à celui qui réclamait d'elle un mot d'espoir. Il avait fallu toute la reconnaissance que ressentait l'abandonnée pour ce protecteur dévoué, tout l'amour qu'elle éprouvait pour celui qui l'avait défendu, sauvé du déshonneur, pour décider Henriette à étouffer son désespoir, pour lui donner le courage de refouler les sanglots qui la suffoquaient. Et elle avait oublié, pour celui qui l'implorait, qu'on venait de la chasser, la comparant aux créatures avilies qui prostituent leur amour. Elle avait, dans un sourire, prononcé ces mots « Au revoir ». Mais lorsqu'elle s'était retrouvée seule, lorsqu'elle eut réfléchi à la situation que lui avaient faite les assiduités de Roger, et qu'elle eut vu quel abîme il y avait entre elle et le gentilhomme qui lui parlait d'avenir et de bonheur, la pauvre enfant s'abandonna de nouveau à son affliction. Le bonheur, pouvait-elle y songer quand elle se souvenait de Louise perdue, de Louise que depuis 3 mois on avait en vain cherchée, de Louise dont elle entendait toujours les appels et les cris déchirants? L'avenir, pouvait-il en exister un autre pour elle que celui des affligés inconsolables, des abandonnés qui n'ont en perspective que la misère, le désespoir sans fin? Elle avait promis à Roger d'attendre son retour. Elle lui avait donné le droit de renverser les obstacles qui s'opposeraient à leur union. Elle lui avait laissé entendre qu'elle serait prête, au jour de l'hyménée, à le suivre à l'hôtel. Elle l'avait vu partir, l'âme remplie de joie, ne se contenant plus d'impatience, courant au-devant de la lutte qu'il avait annoncée lui-même, devoir soutenir contre ceux qui se refuseraient à donner le consentement qu'il allait implorer. Certes, en ce moment où leurs deux âmes se retrouvaient dans une même sympathie, dans une même pensée, où leurs regards disaient tout l'amour qu'ils avaient au cœur, Henriette n'avait pu résister aux supplications qu'on lui adressait. On lui demandait un mot d'espoir et elle l'avait envoyé dans un soupir. Mais après cette période de folle espérance, la raison s'était imposée à cette nature honnête et droite. Elle avait compris, cette créature si chaste et si pure, que son devoir devait passer avant tout, même avant son amour. Elle se dit qu'elle ne pouvait accepter le bonheur au prix des sacrifices que Roger s'imposerait pour elle. Et calme, étouffant les protestations de son cœur, elle murmura « Je ne le verrai plus ». Elle se souvint alors de tous les combats qui s'étaient livrés en elle. Elle se rappela les transes par lesquelles elle avait passé, lorsque, ne pouvant se mentir à elle-même, il lui avait fallu s'avouer qu'elle l'aimait. Elle se rappela les reproches que lui adressait sa conscience lorsqu'en songeant à Louise, elle s'était aperçue qu'un autre prenait par moment, dans son cœur, la place que l'infortunée devait occuper seule. Et honteuse de cette défaillance, de sa tendresse fraternelle, Henriette se disait « Non, je ne renouvellerai pas cette lutte douloureuse entre mon amour et mon devoir ». Puis la pauvre enfant, combattue de la sorte par des pensées si différentes, partagée entre le besoin de retrouver la malheureuse aveugle et le désir de revoir le chevalier, inquiète de ce qui allait arriver, troublée, épouvantée des conséquences que pouvait avoir pour elle la mesure violente qu'avait prise à son égard Madame d'Hervigny, Henriette pensait de nouveau aux heures si douces passées auprès de Roger. « Ah, nous nous aimions bien cependant, » se disait-elle. Mais c'était un trop beau rêve, hélas, et qui m'a déjà rendue trop coupable. Oui, coupable, car j'avais des instants d'oubli. J'avais des heures de joie et de bonheur, mais le réveil ne s'est pas fait attendre. La conduite de Madame d'Hervigny lui revenait à la mémoire pour lui rappeler qu'elle avait été insultée, chassée de cette maison. Ses paroles résonnaient encore à ses oreilles. Alors, courbant la tête, Henriette se disait que tout ce qui lui arrivait était la punition de ces instants d'oubli qu'elle avait eus depuis la disparition de Louise. « Ah ! S'écria-t-elle en joignant les mains, le châtiment n'a pas été lent à venir. » Pauvre douce créature, elle s'accusait comme eût pu le faire une véritable coupable. Elle adressait à Dieu une prière comme on adresse les repentis dans leur touchante humiliation. Puis, tandis qu'elle élevait ainsi son âme, elle retrouvait dans sa pensée le nom de Roger. Elle ne voulait pas être la cause de grands malheurs pour l'homme qui l'avait si généreusement protégé. Dans ces conditions, il ne restait plus à Henriette d'autre ressource que de changer de quartier, à la fois pour se soustraire à la médisance, à la calomnie, et pour que le chevalier ne pût la retrouver. Le peu d'argent qu'elle avait réussi à économiser sur le prix de son travail lui servirait, pensait-elle, à attendre qu'elle pût se procurer de l'ouvrage. Désormais, elle se consacrerait tout entière à la recherche de Louise. Elle ne devait plus tarder à quitter cette maison. Son départ s'effectuerait le plus secrètement possible. Elle profiterait de ce que la nuit venait de très bonne heure pour se faufiler au dehors. Elle quitterait le quartier dans une heure, lorsque la brume obscurcirait les rues. Son bagage n'était pas long à préparer. Elle fit rapidement un paquet de ses hardes. Dans sa précipitation, elle fouillait fiévreusement dans le petit placard qui lui servait d'armoire. C'est là qu'elle serrait les quelques bijoux qui n'avaient de valeur que parce que c'était de pieux souvenirs de sa mère. Et parmi ces chers objets, elle avait toujours conservé deux lettres de Louise, les dernières qu'elle eût écrites avant d'être subitement frappée de cécité. Ces lettres que l'amie lui avait adressées à l'occasion d'un de ces légers nuages entre sœurs, qui appellent de tendres raccommodements, Henriette les avait relues bien souvent depuis, les mouillant de ses larmes. Tout à coup, la vue de ses plis lui suggéra une idée, celle de prévenir Roger de sa résolution en lui demandant pardon de méconnaître ainsi les bontés qu'il avait eues pour elle. « Oui, murmura-t-elle, je lui dois cette preuve de l'affection que je lui ai vouée et qui sera éternelle dans mon cœur. » Elle s'assit devant la table de travail, tout encombrée d'étoffes et de chiffons. Et là, elle se mit à écrire au chevalier quelques lignes émues qu'elle mouillait de ses larmes. Lorsqu'elle eut au bas de cette lettre d'adieu à poser sa signature, elle voulut la relire une dernière fois. Mais à peine avait-elle, au travers du rideau de larmes qui voilait ses yeux, commencé cette lecture, que deux petits coups frappés à la porte la firent tressaillir. Henriette s'était retournée, surprise. Elle se dirigea précipitamment vers la porte qu'elle entr'ouvrit d'une main tremblante. Qui pouvait venir ainsi chez elle? Madame d'Hervigny n'eut pas frappé avec cette hésitation. En voyant paraître une dame habillée avec la plus grande élégance, la jeune fille était demeurée troublée. L'inconnue s'aperçut de son étonnement, et prenant la parole, « Mademoiselle Henriette, je vous prie, s'informa-t-elle avec douceur en regardant l'ouvrière. « C'est moi, madame, » répondit la jeune fille. Elle s'était effacée pour laisser passer la dame. Celle-ci paraissait elle-même un peu embarrassée pour entamer la conversation. Elle fit quelques pas dans la chambre. Henriette lui présenta timidement une chaise. Puis elle attendit, n'osant s'informer du motif de cette visite. Intérieurement, elle éprouvait une impression qu'elle ne pouvait définir. Après le premier moment de surprise, elle avait levé les yeux sur l'inconnu et ses yeux avaient rencontré des regards pleins de bonté. Son cœur battait fort, mais il n'était pas agité par une sensation de crainte, par une appréhension quelconque. Loin de là, le visage de cette grande dame respirait la tristesse et appelait la sympathie. De son côté, la visiteuse ne pouvait se défendre d'un sentiment de compassion pour cette infortunée dont elle connaissait déjà une partie de l'histoire lamentable. Elle aussi était attirée irrésistiblement vers Henriette. Si même elle n'eût écouté que l'élan de son cœur, elle eût tendu les mains à cette créature dont les yeux étaient encore humides de larmes. Et elle se fût écriée. « Ne tremblez pas ainsi, mon enfant. Je sais qui vous êtes, et je vous apporte, en venant ici, une preuve de la confiance que j'ai en celui que vous aimez et qui vous adore. Je suis la tante de Roger. » C'était en effet la comtesse de Lignières qui, voulant tenir la promesse qu'elle avait faite au chevalier, venait se rendre compte par elle-même de ce que Roger lui avait dit au sujet de celle qu'il désirait si ardemment avoir pour compagne de sa vie. Diane, en se rendant auprès d'Henriette, avait fait taire tous ses scrupules, n'écoutant que son affection pour son neveu. Il lui avait parlé d'Henriette avec tant d'enthousiasme qu'elle avait voulu juger de la vérité. Et elle était venue, bravant l'étrangeté de cette démarche, fermement décidée, si elle éprouvait une déception, si elle trouvait Henriette indigne de Roger, de dire à celui-ci tout ce qu'elle aurait ressenti et à le dissuader de projets dont la réalisation l'atteindrait dans sa vie, dans son bonheur et aussi dans son honneur de gentilhomme. Mais à peine s'était-elle trouvée en présence d'Henriette que son cœur avait spontanément éprouvé de la sympathie pour la jeune fille. À peine ses regards avaient-ils rencontré les regards de l'orpheline qu'elle avait compris que Roger eût accordé son affection à cette abandonnée, sur le visage de laquelle se lisaient les sentiments honnêtes en même temps que la tristesse et la résignation. Madame de Lignières s'était assise et faisant signe à Henriette de prendre place auprès d'elle. « Mademoiselle, » lui dit-elle en contenant son émotion. « Voulez-vous me permettre de causer un instant avec vous ?»« Oui, madame, » répondit avec empressement Henriette, étonnée de cette extrême politesse de la part de cette grande dame s'adressant à une ouvrière. Prononçant ces mots, elle avait approché vivement sa chaise de celle de la comtesse. Le son de cette voix lui avait été au cœur. Il lui avait semblé entendre la voix de Louise. Et instinctivement, elle s'était rapprochée, sans éprouver d'embarras, à se trouver tout près de la comtesse. Elle attendait, avec une émotion qu'elle avait peine à contenir, que la voix de l'inconnue se fît entendre de nouveau. Elle voulait l'écouter, cette fois, en fermant les yeux, pour se faire illusion. Pendant cette seconde, son cœur palpitait vivement. Elle écouta. La comtesse reprit après une courte hésitation, comme pour préparer le petit mensonge qu'il lui fallait faire. « Vous m'avez été vivement recommandée, mademoiselle. » Oui, c'était bien la voix si douce de Louise qui avait charmé l'oreille d'Henriette. Les yeux demi-clos, elle avait écouté ces notes si tendres que trouvait la pauvre aveugle lorsqu'autrefois elle parlait à son amie bien-aimée. Henriette poussa un soupir. L'illusion n'avait duré qu'un moment. « Recommandée ? » dit-elle en rougissant. « Je ne comprends pas, madame. » Il lui venait à la pensée que cette dame pouvait bien être une cliente de madame d'Hervigny, qui, ayant entendu parler de ses malheurs, venait peut-être d'elle-même, sans en avoir rien dit à la couturière, offrir de l'ouvrage lucratif à l'ouvrière nécessiteuse. Et tout son sang lui afflua aux joues. Si cela était, qu'allait-elle répondre ? Avouerait-elle à cet inconnu qui semblait vouloir s'intéresser à elle que ce même jour on l'avait traitée de fille perdue, qu'on l'avait repoussée comme pouvant par sa conduite donner de mauvais exemples aux enfants de la maison, qu'on l'avait chassée, oui, chassée comme indigne d'intérêt, de pitié? Dirait-elle que Roger avait été la cause involontaire de cette calomnie? Elle n'osait lever la tête. La comtesse fit cesser cette impression douloureuse. « Oui, mon enfant, » reprit-elle, « vous m'avez été recommandée. Je fais partie d'une société de personnes charitables, et si le bien qu'on m'a dit de vous est justifié, je pourrais vous être utile, vous venir en aide. » Elle n'avait pas achevé que la jeune fille relevait la tête. Henriette avait compris qu'on lui apportait une aumône. Elle se sentit froissée et répondit avec une certaine vivacité. « Je ne suis pas malheureuse, madame. » Mais tout aussitôt, elle se rappela que Louise lui avait été enlevée, qu'elle n'avait cessé de la pleurer, qu'elle allait encore mener l'existence des désespérés jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé son amie infortunée, sa chère aveugle. Et se reprenant, « Hélas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis pas pauvre, madame, je travaille. » La comtesse fit un signe de la tête comme pour féliciter l'ouvrière. Puis elle ajouta d'une voix émue. « Je ne pourrai donc rien pour vous, mon enfant ?» Henriette répondit vivement. « Rien. » Puis une inspiration lui vint. La sympathie qui l'entraînait vers cet inconnu lui suggéra la pensée de s'ouvrir à elle, de lui confier le tourment de sa vie. Elle avait lu une si grande bonté sur le visage de cette dame, tant de compassion, tant de vraie charité, qu'elle voulut lui dire l'immense chagrin qui la torturait. À celle qui avait la voix de Louise, elle se décida à demander une protection, une assistance qu'elle avait déjà rencontrée chez Roger, mais qui, hélas, était demeurée stérile. Alors, elle se reprit. « Je me suis trop hâtée, » fit-elle, « de refuser. « Oui, madame, oui, j'accepte votre secours. Je l'implore même. » La comtesse, étonnée de cette véhémence, tendit la main à Henriette et l'attirant doucement à elle. « Parlez, mon enfant, » s'empressa-t-elle de dire. La jeune fille s'était levée. Si elle n'eût écouté que la respectueuse sympathie qu'elle éprouvait déjà pour l'inconnu, elle se fût agenouillée pour lui faire la confidence qui lui venait aux lèvres. Sa poitrine haletait, sa voix tremblait. Elle dut attendre d'être un peu remise de l'émotion qui l'étreignait. « Pourquoi tremblez-vous ainsi, mon enfant ?» demanda la comtesse avec douceur. « Vous ai-je donné à supposer que je ne vous écouterai pas avec bienveillance ?» Et soupirant, « Je suis disposée cependant à partager la douleur de ceux qui souffrent. Il existe tant de souffrances pour lesquelles il n'y a pas de soulagement, tant de désespoirs qui ne peuvent finir qu'avec la vie. » Henriette avait écouté non sans surprise. Lorsque la comtesse eut cessé de parler, elle s'écria à son tour. « Mais ce n'est pas votre argent, ce n'est pas une aumône que je vous demande, madame. C'est un asile où je puisse vivre obscure, résignée, ignorée, loin du mensonge. » Son sein était oppressé, mais désormais elle avait la volonté d'aller jusqu'au bout. Elle poursuivit donc. « Oui, madame, ce que je vous demande, c'est de me permettre de vivre loin de la calomnie, loin de lui surtout. La comtesse ne put qu'à grand-peine se contenir pour ne pas s'écrier. Ah, ne craignez pas de parler. Je connais le secret de votre cœur. Je sais que vous vous aimez, pauvres chers enfants, et que cet amour est la cause des tourments que vous éprouvez tous deux. Elle se fit de nouveau violence, et ce fut en s'efforçant de simuler la surprise qu'elle reprit. Lui? C'est un jeune homme qui vous aime et que vous aimez, n'est-ce pas? La jeune fille baissa les yeux. Que dirait-elle? Devait-elle avouer? Obligée de répondre enfin, elle murmura d'une voix tremblante. Oui, oui. La comtesse la regarda avec une affectueuse compassion et continua. Et vous songez à le fuir? Pour n'être pas sa... mais... Le mot resta inachevé. Henriette avait vivement relevé la tête et regardé l'inconnu avec une expression où il y avait à la fois de la surprise et de la dignité froissée. Elle s'était si peu attendue à ce qu'un pareil mot lui fût adressé que le rouge lui empourpra les joues. Mais son regard rencontra le regard maternel de l'inconnu et aussitôt le mouvement de révolte qu'elle avait ressenti s'évanouit. Cependant, elle ne pouvait se dispenser, pensait-elle, de protester contre la qualification qu'on avait été sur le point de formuler à son égard. Un sentiment de fierté se manifesta en elle pour lui dicter cette réponse prononcée d'une voix qu'elle avait voulu rendre calme. « Je veux le fuir, madame, pour garder mon courage et n'être pas sa femme. »« Sa femme ? » s'écria la comtesse. Henriette se sentait maintenant satisfaite d'elle-même. Elle avait donné d'un seul mot la preuve des sentiments élevés qu'elle avait dans le cœur. Il ne lui déplaisait pas de laisser entrevoir qu'en agissant comme elle avait l'intention de le faire, elle s'imposait le plus cruel des sacrifices. Elle voulut que cette grande dame emportât une juste idée de son honnêteté et de son abnégation d'elle-même. Et répondant à l'acclamation que sa déclaration si digne venait de provoquer, « Oui, sa femme, reprit-elle, c'est le titre qu'il m'offrait, il n'y a qu'un instant encore. »« Et vous l'avez refusé ? » demanda la comtesse. « Je l'ai refusé, madame. » Madame de Lignières eut un geste d'admiration pour cette jeune fille de condition modeste à laquelle était apparue, comme dans un rêve, la possibilité de réaliser le plus inespéré des mariages. Elle attacha un regard plein de douceur sur cette pauvre créature qui se sacrifiait pour ne pas exposer celui qu'elle aimait à des luttes cruelles contre des parents inexorables. En cette seconde qui suivit la déclaration si nette, si franche qu'elle venait d'entendre, elle se souvint de la douleur qu'elle avait éprouvée, du désespoir qui l'avait torturée, lorsque jeune fille aussi, elle avait dû se séparer de celui qu'elle aimait. Et pendant cette résurrection d'un passé terrible, les regards de la comtesse demeuraient fixés sur le visage attristé d'Henriette. Elle ne pouvait se lasser de contempler cette résignée qui lui rappelait si bien ce qu'elle avait souffert elle-même. « Pauvre enfant » murmura-t-elle. Une larme brilla dans ses yeux. Elle l'essuya furtivement. Désormais, sa conduite était toute tracée. Elle était venue dans le but de s'assurer que Roger ne l'avait pas trompée et ne s'était pas trompé lui-même. Et elle savait maintenant à quoi s'en tenir. Henriette s'était du premier coup montré ce qu'elle était réellement. L'épreuve était concluante. Diane de Lignières ne pouvait pas laisser la jeune fille, qui s'était si franchement ouverte à elle, sur une impression pénible. « C'est bien, » dit-elle avec calme. Et puisque vous m'avez fait votre confidence, mon devoir à présent est de vous parler à mon tour, en toute franchise, en toute loyauté et à visage découvert. » Et sans attendre que la jeune fille fût revenue de sa surprise, elle ajouta en se levant. « Mademoiselle Henriette, je suis la parente du chevalier de Vaudrey. » Et plus bas, avec une émotion contenue. « Je suis presque sa mère. » Henriette s'était levée à son tour et demeurait, tremblante, les yeux baissés, devant celle qui venait de lui révéler sa parenté avec Roger. Dans son esprit troublé, les pensées se succédaient sans qu'elle pût s'arrêter à aucune d'elles pour formuler une réponse. Cette grande dame était la parente de Roger? Presque sa mère? Le cœur de la jeune fille battait avec violence dans sa poitrine haletante. Un nuage passa sur ses yeux, au travers duquel elle vit la comtesse, toujours émue, qui la contemplait et semblait lui adresser un bienveillant sourire. Et comme Henriette, intimidée, se tenait sur une respectueuse réserve, ce fut Madame de Lignières qui reprit. « Oui, je suis presque la mère du chevalier de Vaudrey. L'amour qui vous unit, je le connaissais. » puis s'armant de courage. « Et je vous le dis, mon enfant, » fit-elle avec douceur, « le parti que vous songez à prendre est le seul que je puisse conseiller, car ce n'est pas uniquement notre famille, c'est la toute-puissante volonté du roi qui s'opposerait à ce mariage. » Henriette chancela. Elle comprit qu'il s'agissait pour Roger d'une autre union imposée par le roi lui-même. Et cet insurmontable obstacle lui dévoilait toute l'étendue, toute la puissance de l'amour qui s'était emparée de son âme. Elle fit cependant un violent effort sur elle-même, elle imposa silence à son cœur, et d'une voix qui trahissait à peine sa violente émotion. « Je m'étais tracé ma route, madame, » dit-elle, « avant de vous avoir vue. La route du sacrifice et du devoir. Je le sais. » Diane de Lignières attira la jeune fille à elle dans un mouvement tout maternel. Elle lui tendait les mains qu'elle pressa dans les siennes. « Je sais aussi, » ajouta-t-elle, « que nous sommes riches et puissants. » Henriette releva la tête. « Puissants ? » fit-elle. La comtesse ne voulut pas se laisser interrompre, de peur de donner le champ libre à une mauvaise interprétation de sa pensée. Elle se hâta d'ajouter. « Et si quelque jour nous pouvons reconnaître votre désintéressement, votre courage, mon enfant ?» Subitement, il se fit un changement dans l'attitude de la jeune fille, comme si les paroles qu'avait prononcées la comtesse lui eussent ouvert un horizon nouveau. Et elle s'écria. « Reconnaître le courage que je m'impose pour accomplir un bien douloureux sacrifice ?»« Vous le pouvez, madame, vous le pouvez, bientôt, aujourd'hui même !» Diane la regardait avec étonnement. « Aujourd'hui même, mon enfant, dites-vous ? » ?»«
Oui, madame. »
« Comment ? » ?»«
Écoutez-moi donc, madame. »
« De mon cœur, continua Henriette, de ma tendresse, j'avais fait deux parts. L'une qui lui appartenait, à lui, puis s'animant. L'autre, ah l'autre, je vous en fais le serment, madame, c'était la plus grande, la meilleure, la plus pure. L'autre, je l'avais donnée à une pauvre et chère enfant, qu'on a cruellement séparée de moi.
Séparée ? S'exclama madame de Lignières.
Oui, madame, séparée. Et la voilà seule, errante, dans Paris. Henriette avait levé ses regards au ciel et ses yeux s'étaient remplis de larmes. Et c'est au milieu des sanglots qu'elle poursuivit le triste récit de l'aventure à la suite de laquelle elle avait rencontré le chevalier de Vaudrey.
« Votre famille est toute puissante, » dit-elle. « Eh bien, qu'on cherche l'ami qui m'a été enlevé, qu'on la retrouve, qu'on me la rende, madame. Et j'imposerai silence à mon cœur, j'en arracherai mon amour. Et quel amour, grand Dieu ! Qu'on me la rende enfin, et je disparaîtrai, je m'exilerai pour toujours. »
Elle s'était redressée, et les yeux levés au ciel, elle se croisa les mains sur la poitrine, en s'écriant avec véhémence.
« Oui, je disparaîtrai. J'en fais ici le serment solennel. Voyons, dites, madame, est-ce que c'est trop demandé ?»«
Non, mon enfant, non, » s'empressa de répondre la comtesse. « Je vous promets mon aide, mon appui. Et cela sans retard, sans délai. Voyons, parlez, donnez-moi le nom, le signalement de... »
Elle s'interrompit. Henriette la regardait avec tristesse.
« Son signalement ? Hélas, il n'est que trop facile à donner. »
« Que voulez-vous dire, mon enfant ?» demanda madame de Lignières.
« L'infortunée a 16 ans, et elle est aveugle. »«
Aveugle ? Aveugle ?» répéta la comtesse.
« Elle se nomme Louise, madame. » Diane tressaillit en entendant ce nom.
« Louise, » murmura-t-elle en portant vivement les deux mains à son cœur.
Ce nom, prononcé à l'improviste, lui avait porté un coup qui rouvrait dans son âme toutes les blessures que le temps n'avait pu réussir à cicatriser. Après avoir indiqué, dans les circonstances que l'on sait, le nom de celle dont elle avait été séparée, dans cette fatale soirée de son arrivée à Paris, Henriette interrompit pour la seconde fois son récit. L'attitude de la comtesse l'étonnait au point de lui faire supposer qu'involontairement, elle avait ravivé une douleur chez la parente du chevalier de Vaudrey.
« Louise, c'est un nom qui m'est cher, » dit la comtesse. Des larmes mouillaient ses yeux. Elle poussa un soupir et vivement, elle passa sa main sur son front comme pour chasser de son esprit les souvenirs qui l'assaillaient.
« Soyez tranquille, » reprit-elle, « mon enfant, on la cherchera bien, votre sœur. »«
Louise n'est pas ma sœur, madame. »
Diane répéta avec étonnement.
« Elle n'est pas... »«
Non, madame, » interrompit Henriette, « mais je lui dois à moi seule la tendresse de toute une famille. » La comtesse écoutait avec le plus profond intérêt. Cette histoire avait un côté mystérieux qui l'attachait.
« Que voulez-vous dire, mon enfant ? » fit-elle. « Oui, madame, soupira la jeune fille. En chérissant Louise comme je le fais, je paie la dette de toute une famille, puisque mon père, ma mère et moi, elle nous a sauvés de la misère. « Sauvés ? » s'exclama madame de Lignières. « Qu'a-t-elle donc pu faire pour cela ? » demanda-t-elle, cette malheureuse petite aveugle. « Mon père avait trouvé Louise sur les marches d'une église. « Trouvé ? » s'écria la comtesse, essayant de se remettre du trouble qu'elle avait subitement manifesté. « Ah ! » reprit-elle, « c'est une pauvre enfant trouvée !» Et la voix expira sur ses lèvres. Une émotion violente venait de s'emparer d'elle. Tous ses cruels souvenirs, tous ses désespoirs, toutes les tortures subies depuis 16 années se réveillaient de nouveau dans son âme. « Ma fille aussi, se disait-elle, se nommait Louise, ma fille aussi a été abandonnée. » Et son secret allait s'échapper de son cœur. Mais elle se rappela qu'elle était comtesse de Lignières, qu'elle devait garder intact l'honneur du gentilhomme qui lui avait donné son nom. Et après quelques instants de silence, elle dit à Henriette, « Contez-moi donc l'histoire de cette pauvre enfant trouvée. Vous disiez, ajouta-t-elle en balbutiant, vous disiez qu'elle vous a tous préservés de la misère ? Une misère si terrible, si épouvantable, dit Henriette, que mon père n'avait plus un morceau de pain à donner à sa femme, et que ma mère, épuisée par la souffrance et la faim, n'avait plus une goutte de lait à donner à son enfant. « Oh, pauvre femme !» murmura madame de Lignières. « Oui, pauvre, pauvre mère !» fit Henriette en levant les yeux au ciel. Elle poursuivit avec effort la suite de la touchante narration. « Pour sauver au moins sa fille, » fit-elle lentement, « mon père avait pris le douloureux parti. « Achevez !» dit madame de Lignières. « Mon père, dis-je, avait pris le douloureux parti de confier sa fille à la charité publique. Profitant du sommeil de ma mère, il m'avait enlevé de mon berceau et d'un pas chancelant m'emporta vers le parvis Notre-Dame. » Diane était maintenant suspendue aux lèvres de la jeune fille. Celle-ci continua. C'était un rude hiver. La famine et le froid avaient fait bien des victimes. La neige couvrait les marches de l'église et mon malheureux père s'arrêta en pleurant. « Est-ce que j'aurai la force de l'abandonner là ? » s'écria-t-il. Il n'avait pas achevé ces mots, qui indiquaient le terrible combat qui se livrait en son âme, qu'il entend tout à coup des cris plaintifs à quelques pas de lui. Il s'approche et voit une pauvre petite créature dont le berceau est à moitié enseveli sous la neige. À ces mots, Diane de Lignières se leva d'un bond, et saisissant la main d'Henriette, elle l'étreignit fiévreusement en s'écriant « Il y avait un autre enfant sur ces marches glacées, un enfant dans un berceau, enseveli dans la neige ?»« Oui, madame, » répondit la jeune fille, et le visage et les mains de la pauvre petite abandonnée étaient déjà bleuis par le froid. « Oh, c'est horrible !» s'exclama la comtesse, pendant qu'Henriette poursuivait. « Elle va mourir, » se dit mon père. Il avait tiré l'enfant du berceau. Il essayait de le réchauffer dans ses bras, puis une pensée lui traversa l'esprit. « Hélas, » se dit-il, « de même que celui-ci se mourait, lorsque je suis arrivée, de même mon enfant aura cessé de vivre avant qu'une âme charitable ait pu s'occuper d'elle. Non, je ne l'abandonnerai pas là. Je ne les abandonnerai ni l'une ni l'autre. » Et lui qui était venu en chancelant, portant avec peine et comme un lourd fardeau l'enfant qu'il allait exposer, il s'en revenait d'un pas ferme avec 2 enfants dans les bras. La comtesse de Lignières ne put retenir la manifestation ardente de l'enthousiasme qu'avait excité en elle la conduite si noble, si généreuse de ce malheureux. « Bien, bien !» s'exclama la comtesse, serrant les mains d'Henriette, comme si elle eût serré avec effusion celle de Michel Gérard lui-même. « Oh oui, c'est bien cela !» Puis elle demanda avec vivacité, « Mais ce secours inespéré, ce salut que vous apportait l'enfant ?» Henriette acheva en ces termes. Quelques instants après, mon père avait regagné sa demeure. Pendant son absence, ma mère s'était réveillée, et se livrait, ne me trouvant plus dans le berceau, aux plus sombres conjectures, lorsque mon père parut sur le seuil de la chambre. « Femme, » dit-il en entrant, « nous n'avions qu'un enfant, et ce n'était pas assez, sans doute, pour que le ciel eût pitié de nous. Mais nous voici maintenant, bien plus dignes de sa compassion, nous avons 2 petites filles au lieu d'une. » Ma mère, continua la jeune fille, avait poussé un cri de joie, et malgré son extrême faiblesse, elle s'était précipitée pour prendre à la fois les 2 enfants. Mais mon père l'en empêcha et alla lui-même nous placer toutes les 2 côte à côte dans le berceau naguère encore vide. Henriette était si émue en évoquant ses souvenirs qu'elle dut s'interrompre pour retrouver le calme de son esprit. Madame de Lignières paraissait être sous le coup d'une irrésistible agitation. Cependant, elle modéra son impatience pour donner à la jeune fille le temps de se remettre. « Mon père avait placé l'enfant dans mon berceau, » répéta Henriette. Et quand, pour essayer de réchauffer cette pauvre petite créature, on eut ouvert ses langes, « Eh bien !» fit la comtesse arrivée au dernier degré de l'anxiété. « Il s'en échappa deux rouleaux d'or !» Madame de Lignières chancela. Les yeux démesurément ouverts, elle avait tendu les deux mains vers Henriette. La voix s'arrêtait dans sa gorge. « Oui, madame, » continua la jeune fille, « deux rouleaux d'or, avec ces mots tracés sur un papier. Elle s'appelle Louise, aimez-la. » Diane s'était, pendant que l'ouvrière prononçait cette phrase, redressée vivement. Tout à coup, elle poussa un cri étouffé et s'appuya des deux mains au dossier de la chaise pour ne pas défaillir. Henriette la regardait d'un air étonné, inquiet. Voyant que la comtesse ne pouvait retrouver la parole, « Qu'avez-vous donc, madame ? » s'informa-t-elle avec empressement. Mais déjà madame de Lignières avait compris qu'il lui fallait retrouver son calme devant cette jeune fille dont l'intelligence pouvait même déjà avoir été mise en éveil. Elle fit un violent effort de volonté pour se calmer. Et elle répéta, le plus naturellement qu'elle put, « Moi, rien, je n'ai rien. C'est une touchante histoire et qui m'a vivement émue. » Puis cédant à un sentiment de vive reconnaissance, elle s'empressa d'ajouter en levant les yeux au ciel. « Ah, elle était tombée chez de braves gens, la pauvre petite abandonnée. Mais continuez donc, mon enfant, continuez !» Cette fois, ce fut le tour d'Henriette de témoigner de l'émotion qu'elle éprouvait au souvenir des premières années qu'elle avait passées avec Louise. « Ah, comme nous la chérissions, madame !» s'écria-t-elle en joignant les mains. La récompense de cette exclamation ne se fit pas attendre. Madame de Lignières ouvrit les bras à la jeune fille comme pour l'appeler. Henriette n'osait. La comtesse la saisit, l'étreignit sur son cœur. Puis elle lui dit, en l'embrassant, « Oh oui, vous avez un bon cœur. Et je comprends que Roger vous aime. » Et avant qu'Henriette fût revenue de sa surprise, elle l'embrassait de nouveau avec effusion, tout en prononçant ces mots d'un ton profondément ému. « Je vous aimerai bien aussi, moi. Je vous aime bien, allez. » « Alors ?» s'exclama la jeune fille avec élan. « Alors, madame, vous m'aiderez à la retrouver ?»« Si je vous y aiderai ?» Mais Diane n'était pas au bout de cette douloureuse et pénible épreuve qu'elle subissait par le fait du hasard. Elle se rappela subitement la scène navrante à laquelle elle avait assisté sur les marches de Saint-Sulpice, au sortir de la grand-messe. L'image de cette jeune fille aveugle lui revint vivante à la mémoire. Elle se souvint du serrement de cœur qu'elle avait éprouvé au son de cette voix si triste et qui chevrotait parce que la bise cinglait le visage bleui de la pauvre chanteuse. « Ah, mon Dieu !» s'écria-t-elle tout à coup. « Aveugle, vous m'avez dit qu'elle était... »« Oui, madame, ma chère Louise avait perdu la vue. » « Et comment s'est abattu sur elle cet horrible malheur ?» s'empressa de demander la comtesse. « Oh, bien horrible en effet !» répondit en soupirant la jeune fille. « Il est toujours présent à ma pensée, ce fatal souvenir !» Et voulant pousser jusqu'au bout la confidence qu'elle avait promise à la comtesse, elle allait raconter la façon dont Louise avait été, on s'en souvient, frappée subitement de cécité pendant une promenade que Madame Gérard faisait en compagnie de ses deux enfants. « C'était... » commença-t-elle. Mais elle s'arrêta tout à coup. Elle porta vivement la main à son cœur. Elle écouta. On chantait dans le lointain. Madame de Lignières, tout à sa préoccupation, n'avait pas entendu. Et doucement, elle pressait Henriette de continuer. Mais la jeune fille s'était vivement rapprochée de la croisée. Le cou tendu, les yeux enflammés, elle prêtait l'oreille. Il lui semblait saisir l'air qu'on chantait, dans la rue, à une assez grande distance. Elle crut reconnaître cette voix. C'était comme un écho de la voix de Louise qui lui arrivait à travers l'espace. Mais bientôt le chant cessa. Et tout en continuant d'écouter, Henriette reprit. C'était un jour... Diane suivait attentivement. « Eh bien, » dit-elle en s'apercevant que la jeune fille avait de nombreuses distractions depuis un instant. « Il y a, » poursuivit l'ouvrière, les yeux toujours tournés vers la croisée, « il y a 2 ans. »«
2 ans ? » ?»«
Oui, oui, 2 ans. Louise en avait alors... » « Achevez donc !» implora la comtesse en marchant vers Henriette. « De grâce, achevez, mon enfant !» Mais la jeune fille, maintenant, semblait en proie à une fièvre violente. Et c'est en élevant la voix, peu à peu, qu'elle dit Louise en avait alors 14. La voix entendue se rapprochant sensiblement, Henriette s'était élancée, folle d'espérance, à la croisée. Elle balbutiait d'un air distrait et préoccupé. Nous jouions ensemble. » Tout à coup, la voix du dehors se fit entendre distinctement. « Ô passant charitable, venez à mon secours. Mes jours sont lamentables. Pour moi, la nuit, toujours. Soulagez ma misère, chacun vous le dira. À qui donne sur terre, au ciel, Dieu le rendra. » Henriette a reconnu la voix de Louise. Elle pousse un grand cri et va en chancelant vers la porte en s'écriant avec force. « C'est elle, madame, c'est elle !» Diane la suivait en répétant, troublée elle-même jusqu'au fond du cœur. « C'est elle, dites-vous ? Elle ? La pauvre mendiante que j'ai rencontrée ? Elle que j'ai vue ? Elle, ma ? C'était ma ?» Diane n'acheva pas. Henriette s'est emparée de son bras et l'entraînait en suppliant. « Ah, courons, madame !» Et comme la comtesse, haletante, semblait rivée à sa place, Henriette joignit les mains en suppliant. Et elle répéta d'un ton d'inexprimable émotion. « Oh, de grâce, madame, venez vite !» Mais tout à coup, au moment où la jeune fille, entraînant Diane de Lignières, allait prendre son élan, les deux femmes s'arrêtèrent interdites. La porte de la chambre s'était brusquement ouverte.